partager, comme dit Chazal, comme l'eau se reflète dans l'eau, comme ça le cœur de l'homme se reflète dans le cœur de l'homme. Tout à fait réciproque, très heureux d'être ici. Et je bénis le Rav Ben Ezra de continuer ici sa mission sainte. C'est pas simple. Nous habitons à Jérusalem, on est entouré d'orthodoxes, de yeshivotes, ici à Tel Aviv. Et bon, Hachem, il amène la sainteté ici à Tel Aviv, c'est une mitzvah énorme. Donc, il y a l'aide de notre chaîne, et que très bientôt, il n'y a plus de place dans la synagogue.
Amen.
Le titre qui a été choisi pour cette conférence de ce soir, c'est Tshuva et Geoula. Tshuva, le Rav Pinchon en a déjà parlé un peu, on va en parler un peu. Ou le rapport avec la Geoula. Il faut comprendre en quelle époque on vit. Dans deux semaines, on lit Parasha Kitavo. C'est une parasha qui est très très dure. Dieu nous dit, si vous faites le mitzvot, voici la série de bénédictions qui vous attend. Et si vous ne faites pas le mitzvot, vous faites des péchés, chassé shalom, voici la série de malédictions qui vous attend. Et on a droit à 98 malédictions terribles. Quand on lit ça à la Torah, Shabbat, on lit à voix basse rapidement, c'est terrible. Hélas, le peuple d'Israël a choisi l'option de ne pas faire des mitzvot, de beaucoup de péchés. Et le peuple d'Israël s'est engagé dans la voie des 98 malédictions. Un point tel, c'est qu'on veut prouver aujourd'hui à quelqu'un de non-croyant la Torah d'origine divine, c'est un cours qui s'appelle la première réfutable. Je prends les prophéties de ces malédictions et je montre que de façon tout à fait anormale, tout s'est réalisé et tout était prévu à l'avance. En gros, on sera chassé de la terre d'Israël, on sera vendu en esclavage en Égypte, on sera mis là-bas en esclavage par bateau, puis on sera disséminé dans le monde entier. On ne pourra pas rester longtemps au même endroit, il y aura des expulsions forcées, il y en a eu énormément. On parlera de nous sans cesse, de façon tout à fait non appropriée à notre chiffre, mais très très peu, on représente 0,2% du monde. On parle de nous comme si on était 30% du monde. Une fois en Amérique, quand ils ont fait un séquel, on dit ça,
un sondage.
Ils ont demandé, vous n'avez qu'un moyen, à votre avis, quelle est la superficie de l'État d'Israël? La moyenne des réponses était égale à la France, 80 fois plus grand que ce que c'est en réalité. Quand les gens viennent à Jérusalem, la première fois de leur vie, ils sont toujours très très étonnés à quel point c'est tout petit. On parle tellement minuscule, on est un petit peuple de rien du tout. On parle de nous sans cesse. Tout cela est écrit. Et ça fait bientôt... Ça fait 1950 ans qu'on est encore en exil. Mais néanmoins, on est en train de sortir du tunnel. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Il y a un siècle, alors j'aurais dit, ok, on est en galoute, il faut croire qu'un beau jour, ma chère viendra et je ne saurai pas. Aujourd'hui, c'est extrêmement évident. Si on prend les textes qui parlent de notre époque, on verra que carrément tout ce qui est écrit s'est réalisé. Et nous sommes donc des spectateurs et acteurs, vous-même en tant que francophones, des acteurs de ce retour, d'abord physique, du peuple d'Israël, d'exil. Je crois que cette année, on est passé, la majorité des Juifs habitent la terre d'Israël. C'est extraordinaire. Qui l'eût cru? Il y a un sexe encore impossible. Impossible. Cela est écrit très clairement dans la Torah, dans les Devarim, chapitre 30. Dieu nous promet. L'Éternel, ton Dieu, te prend en pitié, mettra un terme à ton exil et te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tu proscris, fût-il à l'extrémité des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rappellera de là et là-même il irait te reprendre. Il te ramènera à l'Éternel, ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères. Tu posseras à ton tour et te rendras florissant et nombreux plus que tes pères. Retour en terre d'Israël, c'est une prophétie. Nous l'avons réalisée. Elle marque le début de la fin de l'exil. Retour physique du peuple d'Israël. La terre elle-même, il est écrit à propos de la terre, qu'elle aussi va reconnaître que bientôt son peuple chéri, le peuple d'Israël, revient sur la terre. Cette terre qui est du point de vue potentiel extrêmement riche, elle réserve à une vache dans laquelle coule le lait et le miel. Durant près de 2000 ans de présence non-juive sur la Terre, elle est restée bizarrement désertique, aride. Revient le peuple juif et la Terre donne ses fruits. D'abord, c'est marqué sur la Terre, c'est ce que je viens de dire. Il te ramènera à terre ton Dieu dans le pays qu'ont possédé tes pères, tu le posséderas à ton tour et te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. Florissant. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous lire aussi une très belle prophétie de Yéhézkel, chapitre 36. 38 et 39, ça parle de Gog et Magog, on va en parler aussi un peu ce soir. Mais 36, il parle de retour du peuple en Israël. On lit ce verset, je ne peux pas lire tous les matins, c'est un peu long. Mais ce soir ou demain, prenez vos temps, prenez Yéhézkel 36, on est en train de voir l'actualité. Je vous en dis quelques passages. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison, vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Dieu ordonne aux montagnes d'Israël, donnez vos fruits. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que ce verset. Tu n'as pas de signe que nous sommes à la fin de l'histoire, au retour d'Israël sur sa terre, à la venue du Messie, la construction du temple, la fin de l'exil. Le but de tout ce monde-là, que ce verset qui dit « Ô vous, montagnes d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. » Comme explique Rachid là-bas dans la Gemara, il dit « Lorsque la terre va donner ses fruits de façon abondante, tu ne peux pas avoir de signe plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin. » La terre qui est désertique pendant 2000 ans, tout d'un coup elle donne ses fruits. Aujourd'hui c'est connu, les meilleurs agronomes sont les agronomes israéliens. Le seul pays au monde où le désert perd du terrain par rapport à la verdure. Dans tous les pays, c'est le désert qui gagne du terrain. Il y a un seul pays où c'est la verdure qui gagne du terrain, la terre d'Israël. On exporte, comment je suis à Tel Aviv, c'est les restes. Les bons fruits partent à l'étranger. D'accord ? Les bons fruits, c'est des fruits extraordinaires. Vraiment, aujourd'hui, on envoie des agronomes dans tous les pays, le tiers-monde, parce qu'ils veulent savoir comment c'est quoi votre méthode. Je le fais. Les Goyim ont appelé ça le miracle agricole israélien. Un vrai miracle, c'est vrai. Il est marqué clairement. Car moi, je vais venir vers vous, donc Dieu se tourne vers nous. Je me tournerai de votre côté, vous serez cultivés, ensemencés. Je multiplierai sur la population la maison d'Israël toute entière. Les villes seront repeuplées, les ruines rebâties. Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois, et vous ferez plus de bien qu'à vos débuts, et vous saurez que je suis l'Éternel. La terre d'Israël, de nouveau, est habitée par les Juifs. Les villes sont rebâties. Beaucoup de villes en Israël sont rebâties sur des ruines de villes qui avaient le même nom il y a 2000 ans, qui n'existaient plus. Et maintenant, elles sont de nouveau rebâties, elles existent. Et Baruch HaShem, on n'en finit plus. Baruch HaShem, de plus en plus, de plus en plus. Ça, c'est donc le retour physique des Juifs en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits. Le verset, j'ai perdu la page, on va le retrouver rapidement, c'est chapitre 30. De Varim nous dit que le peuple juif reviendra sur la terre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme et assure ton existence. Enfin, Chouba. Dieu va circoncire notre cœur qui est un cœur de pierre, un cœur. Hélas, cet état a été bâti par des sionistes athées. Il y avait un mouvement anti-religieux extrêmement grand dans le peuple juif. Avant la Shoah, des millions de juifs ont quitté la Torah, des millions. Et bizarrement, on n'a jamais vu ça de toute l'histoire juive. Le peuple d'Israël fait Shoah. Ce synagogue-là est une preuve. D'accord ? Qui l'a cru ? Qui l'a cru ? Qui est tellement de. C'est extraordinaire. Moi, c'est mon job, la Shoah. Dans tous les pays du monde, la France, je crois qu'on est le numéro un au monde. D'accord ? La Shoah française, elle est énorme. Mais il y en a en Russie, il y en a en Thaïlande, il y en a partout, des millions de juifs qui font le Shoah. Pas forcément au niveau orthodoxe, la barbe, le chapeau, etc. Mais ils se rapprochent. Les pilotes d'avion israéliens, combien ont fait le Shoah? Il y en a dans mon quartier, un des grands pilotes de l'armée, il a fait le Shoah, un autre aussi. Les artistes, aujourd'hui les chanteurs, il y en a maintenant des chanteurs qui c'est fini, on leur a donné un. Tomer Adam, oui, ça peut d'accord, on lui a donné 1 million de shekalim pour venir Shabbat, il a dit non. Dernièrement, on a fait le passage avec le Véron, 50 000 personnes qui répondent Amen. Les gens font Tchouva, même dans les chansons. Même les gens ne parlent pas des chansons religieuses, chansons qu'on entend à la radio non religieuses. Il y a beaucoup de chants où on parle de Dieu. Dans aucun pays au monde, on parle de Dieu dans les chansons, on parle des femmes. Il n'y a que ça. D'accord ? quand on parle en France, les lapins, les sapins, de quoi on parle? Les femmes, d'accord? On s'est vu, tu m'as vu, je t'ai vu, je t'ai aimé, tu m'as aimé, etc. Tout ce que ça veut. Dans aucun pays au monde, on parle dans les chansons des noms religieux de Dieu. Et des cléonies, ils en parlent, ils chantent, etc. Absolument. Oui, c'est pas le nom de Dieu. Ça va rien, non, ça dépend. Ça en touche à. Dieu fait un mouvement de tchouva et vous dit, c'est unique de l'histoire. Une seule fois que ça a fait tchouva, une très grande tchouva, c'est quand à l'époque de Haman. Haman a dit, ça va, je tue tout le monde. Alors là, ils ont compris qu'on fait tchouva. Mais là, on ne parle pas d'une tchouva de peur, on parle d'une tchouva d'amour. Les gens recherchent pourquoi je vis, quel est le sens. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce verset qui est écrit dans la Torah et Maïmonide écrit. Mais le tchouva, chapitre 5, alinéa 7, il dit, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Israël feront tchouva. Et immédiatement, ils seront sauvés. Donc on a une promesse qu'à la fin de l'histoire, on fait tchouva. Mesdames, messieurs, on y est. Mettez-vous dans le mouvement. D'accord, c'est dommage de passer à côté. Alors, ces trucs à l'époque, dans le bracha, ils disaient, il faut être dans la mouvance. D'accord, la mouvance, c'est la tchouva. Il faut faire tchouva, ça va prochain. Et là, dans Yeshes 436, comme je commençais à raconter le retour du peuple d'Israël sur sa terre, il continue aussi avec la tchouva. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et vous ramènerai sur votre sol. Ça, c'est le retour physique. Et je pencherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai. Je donnerai un cœur nouveau, j'inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein, je donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais les frères font tchouva, Baruch Hashem. C'est un signe extraordinaire pour pourquoi nous sommes proches de la fin. Qu'est-ce qu'il y a encore qui prouve que nous sommes très proches de la fin? Parashat Chaye Sarah raconte la mort de Sarah et après, aussi à la fin de la Parasha, la mort de Ishmaël. Le dernier verset, les derniers mots de cette Parasha disent Atnei kol echav nafal. On parle des peuplades de Ishmaël. Écrit en face de ses frères, la phrase Rachel explique qu'il s'est étendu. Comme en français, s'étendre, ça peut être tomber, mais aussi s'étendre. On va étendre des tentes, on va étendre des populations. Alors là aussi, les deux sens sont nébreux. Et Rachel dit que dans ce verset, après quoi la femme de Baal, il s'est étendu en face de ses frères, on parle des populations ismaélites. Un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, le Baal HaTourim, Rabbi Yaakov Ben Asher, le Baal HaTourim, c'est lui qui, c'est un très très grand halakha. C'est sur la base de son livre que Shulchan Aruch était écrit, mais il est aussi très grand en explication du Tanakh, de la Torah. Je crois que sur aucune édition de Torah, il y a pas son, il y a Rashi et son Pirush à lui et son explication à lui, son commentaire. Sur ce verset, à Kol Pnei Echav Nafal, il dit la chose suivante. Il dit juste après commence la paracha El et Toldot Yitzhak Ben Avraham. Voici les engendrements, la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham, pour nous dire. Lorsque Apne Kolecham Nafal, lorsque tombera Ishmael, lui comprend Nafal, tomber. Lorsque Ishmael tombera à la fin des temps, alors maintenant le Mashiach, descendance de Israël ben Avraham. Et dans beaucoup de Midrashim très vieux, on a cette notion. Le Mashiach pousse sur Ishmael. Quand, quelque part, à la fin, après tous les exils, le dernier à qui on a affaire, c'est Ishmael. Et il doit tomber. Je suis très heureux de vous dire, mesdames et messieurs, qu'Ishmael est tombé. C'est terminé. Si on prend la situation d'Ishmaël et d'Israël, il y a, on va dire, 52 ans avant la guerre de 67, la guerre des 6 jours, c'était terrible. À hauteur de la Tamia, la frontière, l'État d'Israël faisait 22 km. Au milieu de Jérusalem, c'est la frontière avec les Jordaniens. Les Arabes étaient partout autour de nous, extrêmement puissants, on était un petit pays vulnérable. Ils étaient beaucoup plus grands en nombre, en équipement, beaucoup plus forts. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire dans les écoles stratégiques américaines. On n'enseigne jamais la guerre des 6 jours. Un jour, un élève a posé la question de prendre pourquoi. Il dit, ça n'a rien à prendre cette guerre. C'est un miracle de A à Z. Dieu a fait des miracles extraordinaires. On a gagné cette guerre. C'est pas tout, on a encore beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de nos ennemis? L'Égypte de Nasser, de Sadat, terminé. L'Irak de Saddam Hussein, balayé. Kadhafi, balayé. La Syrie, c'était notre pire ennemi, le plus dur. Qu'est-ce qu'il reste de guerre civile, 350 000 morts, Kanyamou, terminé. Jordanie, ils sont amis avec nous. Arabie Saoudite, ils sont même. On est en, en association militaire contre l'Iran. Tous les Arabes maintenant sont ou n'ont plus de pouvoir ou sont avec nous. Ismaël est tombé. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'Arabes dans le monde. Il y en a, mais il n'y a plus de pays menaçant l'existence de l'État d'Israël. Ça n'existe pas. Il y a l'Iran. Mais l'Iran, ce n'est pas Ismaël. Bien qu'ils ont la religion d'Ismaël, l'islam, ils n'ont rien à voir avec, ce n'est pas des descendants d'Ismaël. Les Iraniens, ce sont des descendants, ça n'a rien à voir, ils n'appellent pas d'avoir ma ville. Déjà, dans les descendants de Noé, dans le chapitre 10 de Bereshit, on parle tous les descendants, il y a un qui s'appelle Tiras, Rachid sur place. Tiras, c'est Paras, Paras, la Perse, donc l'Iran. Il vient tout à fait d'une autre source génétique. On va parler tout de suite de l'Iran. En tout cas, le mot d'Ismaël, c'est encore un signe très clair, comme quoi, à la fin, terminé. Dernière chose qui nous montre que nous sommes très très proches, à part ce que j'entends dire de l'actualité qui va arriver bientôt, mais attachez, l'État d'Israël. Le Zohar HaKadosh, ce n'est pas écrit dans les textes normaux, dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit après qu'on aura été en exil dans différents peuples, il y a quatre grands peuples qui ont été en exil, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, l'Occident. À la fin, comme je dis aussi Ismaël, mais tout à la fin, le Zohar dit qu'il y aura même Shalet Erevrav, il y aura un pays qui sera dirigé par des juifs, mais mélangé. Erevrav, grand mélange. D'un côté, ils sont pour la Torah, d'un côté, ils sont super contre la Torah. Il y a de tout, d'accord. D'un côté, on n'a jamais eu autant de Torah. Depuis que le peuple, que la Torah était ici en Israël il y a 2000 ans et partout en exil, on n'a pas eu autant de Torah comme il y a aujourd'hui. Le Rav Chaim Kanevski, une grande génération, a dit et en quantité et en qualité. Et en quantité et en qualité. Mir, qui est la plus grande échelle au monde, combien à la Seconde Guerre mondiale, ils étaient 200-300 élèves. Aujourd'hui, je ne sais plus, il faut tout se mettre à jour. Il y a 8000 l'année passée, déjà 9000 cette année, 10000 l'année prochaine, d'accord. Ponovitch, etc. Des échelles sans cesse. Maintenant, je suis en voiture, on m'a dit il y a ici à Tel Aviv, une échelle, ils ont dit Yesodon, mais Yesodon, je ne comprends pas, c'est dans le sud du pays. Non, ils ont fait aussi une surplusale, ils sont 450 à Tel Aviv. Partout, Kenyan-Roubaou Hachem. C'est extraordinaire ce retour d'Israël, la Torah d'Israël qui revient en terre d'Israël. La Torah est partie il y a 1800 ans en Babylonie. Après, la Torah des Constantes était en Afrique du Nord, après en Espagne, après en Provence, après en Ashkenaz, en Alsace, après en Russie. La Torah est revenue en terre d'Israël. Tous les grands Torahs sont d'Israël, les grandes choses sont d'Israël. C'est extraordinaire. Pourquoi je parlais du retour de la Torah en Israël? Parce que dans cet état, d'un côté, il y a oui le fait que la Torah puisse se développer, mais aussi d'un côté, tout le mouvement anti-religieux qui est très fort. La gay pride, la vente de porc libre, on veut faire maintenant des guillourines, des conversions laïques, d'accord. Et ça, c'est pour cela peut-être qu'on va en parler un peu maintenant, parce que je suis aussi là pour ça. Dans quelques jours, on fait les élections. Comme a dit le Rav David Pinto, lui et moi, je comprenais la même souche, on déteste la politique. Mais ça, ce n'est pas la politique. On parle maintenant d'une bataille de Torah. Nous voulons que cet État soit un État juif. Nous voulons que ce soit maintenant la réalisation des prophéties du retour du peuple juif sur sa terre. Retour de la Torah, on veut que Mashiach vienne. Et c'est dans nos mains. On doit aider le mouvement chasse. Il n'y a pas de mouvement politique qui fait autant pour le peuple juif qu'au niveau toraïque. Et au niveau social, et pour les Français, mais au niveau toraïque, ils font énormément. Si quelqu'un veut que cet État reste un État juif, pas seulement dans le nom, mais dans l'essence, d'accord, et aille en amplifiant, c'est une mitzvah. Le Stipler, le père de la Chalukah Nesri, la grande génération, son père c'est le Stipler, la grande génération lui-même aussi. Il allait mettre le billet des élections avant la prière, au mikvé, et allait faire la mitzvah de mettre maintenant le billet des élections avant sa prière de Shacharit. Parce que c'est avant tout super important. Donc on peut jusqu'à 10h du soir, 9h du soir, première chose de la journée. Donc je serais trop vous conseiller, d'autant plus en tant que francophone, qui aujourd'hui dans les partis politiques israéliens s'occupent des francophones. Ou alors, rien. Ici on a vu qu'il là il y a quelques minutes, Rav Yossi Taïeb, mais quoi, il est censé être le 12e Bezrat Hashem ministre dans le cadre du parti de chasse. Ils veulent ouvrir les écoles pour les francophones. On a besoin de cela. L'Aliya ici, c'est très dur pour les jeunes gens qui viennent. Ils n'arrivent pas à s'habituer au système éducatif israélien. On veut des écoles type français pour les francophones en Israël. Chasse prévoit d'ouvrir un bureau spécial pour l'Aliya, pour aider l'Aliya. Aujourd'hui, l'Aliya, ça va très simplement pour les Russes. Il y a beaucoup d'argent pour aider nos frères de France qui qui sont, je crois que c'est le pays où il y a le plus de juifs sionistes qui veulent venir en terre d'Israël. Les Russes, absolument rien à faire. Les Français, oui, il faut les aider. Donc, et du point de vue thoraïque, et du point de vue social, et surtout du point de vue francophone, on a une mitzvah, je ne dis pas maintenant, pas politique, mais une mitzvah de la Torah maintenant. On est en bataille d'aider à Israël à revenir plus religieux, qu'on soit un État juif, avec le judaïsme, pas devenir orthodoxe avec des barres, pas du tout, mais qu'il y ait plus de judaïsme, plus de Torah, qu'il y ait plus de gens qui aient le sens de ce que veut la Torah. Et là, c'est notre Hachem, ma chère viendra très rapidement. Il y a un livre dans les 24 livres de la Bible qui s'appelle le livre de Daniel. Je recommande beaucoup de le lire, mais pas la nuit. Pourquoi pas la nuit? Parce qu'il est tellement passionnant qu'on n'aurait pas s'endormir. Passionnant. Là-bas, au chapitre 2, il raconte l'histoire suivante. Vous allez voir quel point c'est passionnant. Daniel était un des grands sages qui avait essayé Jérusalem. Et le pauvre, il a vécu la destruction du premier temple par l'empereur babylonien, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Et il a été déporté en Babylonie. Nabucodonosor était un tyran terrible, le plus grand empereur de l'histoire jusqu'à l'époque. Mais il était intelligent. Il comprenait qu'il devait avoir des conseillers intelligents près de lui. Donc il a pris une centaine de conseillers, des sages, des devins, des magiciens, pour le conseiller. Et de tous les pays qu'il avait conquis, comme ça, il avait quelques magiciens, quelques devins, quelques sages de ces pays-là. Dont Daniel et ses trois amis, Michel, Hanania et Azariah. Là, au chapitre 2 de Daniel, il raconte l'histoire suivante, c'est l'histoire de la Bible, vous pouvez le lire dedans. Un matin, Nabucodonosor, d'urgence, réunit tous ses sages. Alors, écoutez, messieurs, j'ai fait un rêve cette nuit. Je sens que ce rêve est extrêmement significatif. J'aimerais comprendre le sens de ce rêve. Les magiciens disent, pas de problème, sa majesté, racontez-nous le rêve et on va vous l'interpréter. Il est trop facile. Si vous êtes vraiment des vrais devins, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Parce qu'interpréter un rêve, on peut toujours dire ce qu'on veut. J'ai rêvé aussi de ça, on peut pas dire qui me dit que c'est la interprétation. C'est vraiment des vrais devins, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Quand je rêve, vous devinez ce que j'ai rêvé, je vous croirai pour l'interprétation. Je vous écoute, messieurs. Les devins rentrent en panique, mais c'est impossible, sa majesté. Aucun roi n'a demandé comme ça à sa cour. Écoute, on a tous ici un bac plus 7 en interprétation des rêves. N'ayez crainte, racontez votre rêve, vous aurez la vraie interprétation 100%. Les quatre, Daniel et ses trois amis étaient absents, ils n'étaient pas là. Je pense qu'ils étaient en train de prier chaque rite, ils n'étaient pas présents à cette réunion des sages. Que nous leur dit, écoutez, vous me coûtez beaucoup d'argent, c'est une centaine de sages ici, qui me servent à rien. Incapable de me répondre maintenant, qu'est-ce que j'ai rêvé? Moi, je vous paye ici l'hôtel 5 étoiles, petit déjeuner continental, 10 heures, midi, déjeuner, goûter, dîner, l'encart à minuit, service de nuit, tout ça, ça me coûte de l'argent. Incapable de répondre à ma question, ben je vois que vous ne servez à rien, alors je vous liquide. Je vous laisse encore une minute, messieurs. Les sages rentrent en panique, la minute passe et rien ne se passe. Nabucodonosor rentre dans une colère terrible, il fait un édit, il décrète que tous les sages de Babylonie vont être envoyés à la fournaise, au feu. Consternation à Babylonie, nos quatre amis ne sont pas au courant. Vient le bourreau, leur dit, écoutez, messieurs, venez, qu'est-ce qu'il y a? À la fournaise, quoi la fournaise? Et il raconte l'histoire. Daniel dit au bourreau, va voir le roi, lui que je veux une audience d'urgence. Le roi accepte. Daniel vient et dit, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous donne et le rêve et son interprétation. Quand on réfléchit un peu, il dit, ok Daniel, j'accepte. Si dans 24 heures, tu ne me donnes pas le rêve, je te fais une mort spéciale comme ça dans les caves, c'est l'Irak actuel, d'accord, les caves KGB irakiens de l'époque. Daniel répond luxe et va voir ses amis. Il voit ses amis, il leur dit, écoutez, il faut absolument qu'on sache, allez, on fait la prise, soit après, et il s'endort, Daniel s'endort. Et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabucodonosor et bien sûr aussi de l'interprétation. Il revient le lendemain matin, il dit, vous la suivez, c'est intéressant, hein? Passionnant. Il dit, Sa Majesté, voici, vous étiez sur votre lit, ce que vous avez devant vous, une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer, et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Est venue une petite pierre sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, et toute la grande statue s'est écroulée. La petite pierre a commencé à grandir, est devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Après, nous leur dit, Daniel, Banco, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Il dit sa majesté. Dieu régnait et avait son trône à Jérusalem. C'est là-bas qu'il régnait sur le monde entier. Et toi, tu as détruit le trône de Dieu. Tu as détruit le temple de Jérusalem. Et dès lors, tu es devenu héritier de cette royauté. Aujourd'hui, la présence divine est partie. Et toi, maintenant, tu es le maître du monde. Il n'y a pas eu d'ordre aussi grand que toi durant toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et cette statue, en fait, raconte l'histoire de cette royauté. Toi, tu es représenté par la tête d'or. Ton empire, l'empire babylonien, mais un jour va disparaître. Ça va remplacer par un autre empire qui, lui, sera comparé à la poitrine d'argent. Quel est l'empire qui a remplacé l'empire babylonien? C'est l'empire perse, les Perses. Mais lui aussi aura une fin, et ça va remplacer par un empire comparé au ventre de cuivre. Qui est l'empire qui a remplacé les Perses? Ce sont les Grecs. Très bien, Alexandre le Grand qui va conquérir jusqu'à l'Inde. Cet empire aussi aura une fin, sera conquis par les Romains, comparé aux jambes de fer. Et à la fin, il y aura moitié fer, moitié argile. Une partie du monde sera sous la maîtrise du monde occidental, la suite d'Europe. Et l'autre partie argile, ce sera le monde arabe, Ismaël. D'accord? De tout temps, il y a eu les querelles entre les deux, que ce soit les Arabes à l'époque jusqu'à Poitiers, ensuite l'Empire ottoman, les Occidentaux. Encore aujourd'hui, c'est pas le grand amour entre l'Occident et l'Orient. À la fin, viendra une possibilité sans intervention d'humain humain, c'est l'époque messianique, la plus pire représentation du peuple d'Israël. Elle va toucher le bout des pieds et toutes les grandes statues vont s'écrouler. La plus pire va grandir, fini. Il n'y aura plus la force physique, militaire, il y aura la spiritualité, la Torah, la pierre. La pierre, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est comparé à une pierre? D'abord, dans la réalité, on a quatre domaines: minéral, végétal, animal, humain. Les trois derniers, il y a toujours une progression, une apogée, un déclin, disparition. Une fleur fan disparaît. Un animal meurt, un homme aussi, tout disparaît. La pierre, elle reste comme elle est toujours. Je pose une pierre ici, je reviens dans un an, ça ne va pas bouger, elle est là. Dans 10 ans, dans un siècle, dans 1000 ans, le bâtiment, je ne sais pas s'il sera là, mais la pierre sera là. C'est le corps, elle sera sous la pluie, un peu érodée, mais elle est présente. Le peuple d'Israël, c'est un peuple éternel. Tous les peuples ont une ascension, un déclin, disparaissent. Nous, on reste. Et dans quelles conditions? Hors de nos terres, sans cesse. Il n'y a pas de génération, on ne vient pas nous anéantir, comme on dit le soir du Seigneur. Et malgré tout, on reste. Quel est le secret? Grâce à quoi cette pierre, elle a pu traverser 3300 ans d'histoire? Rachid nous le dit. Sur le verset au Misham Roi Evel Israël, Pierre en hébreu se dit Evel. Evel, c'est la contraction de deux mots. Av, Ben. Grâce à quoi on a réussi à vaincre les empires de tous les temps? La Gemara pour parfois te dit, lorsque ton fils te met à parler, enseigne-lui Shema Israël, enseigne-lui la Torah, tu vas à la prochaine prochaine qui a été à Kov, enseigne-lui la Torah, et ainsi tu le rends éternel. Parce que lui, un jour, deviendra papa. Et aussi la Torah à son fils. Qui deviendra papa? Et si nous, on est juifs aujourd'hui parce que nos parents ont enseigné, nos grands-parents, etc. Even, quelle est la force de la pierre? L'enseignement de la Torah, la transmission de la Torah, de père en fils depuis 3000 ans, ça fait qu'on est encore le même peuple que nous sommes, un peuple éternel. Nabucodonosor entend ça et dit, extraordinaire, Daniel, c'est exactement ça, amener des sacrifices, c'est pas un homme, c'est un dieu. Ah non, je ne suis pas un dieu, rien du tout, c'est Dieu qui m'a envoyé pour te donner l'explication de ce rêve. Dans le chapitre 45 de ce chapitre 2, où elle raconte l'histoire que je viens de vous raconter, on raconte la destruction de la statue. Et le Malbim pose la question, il dit, c'est très bizarre, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, la pierre a touché le bout des pieds, et ont été détruits le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qui cloche dans ce verset? Que l'ordre des matériaux, il n'est pas dans l'ordre. Tu aurais vu depuis le haut jusqu'au bas, or, argent, cuivre, fer, argile, ou du bas en haut, argile, fer, cuivre, argent, or. Tu commences par le ventre, cuivre, tu descends, fer, tu descends encore argile, après tu remontes, argent, or. Bizarre. Ma belle dit rien de bizarre pour nous dire comment ça aura lieu. Comment aura lieu la fin des empires? La venue du Mashiach. Il nous dit, il y aura deux blocs. Le premier bloc, ça sera les deux premiers. Le cuivre et le fer. Le cuivre, on avait dit, c'était la Grèce. Le fer, c'est Rome. La culture gréco-latine. C'est qui la culture gréco-latine? Ben, c'est vous et nous. Pas en israélien, francophone, d'accord? Le français, c'est une langue gréco-latine. L'anglais, l'italien, l'espagnol, tout le monde occidental viennent tous de la culture qui provient de Grèce et de Rome. Ça sera un bloc, le monde occidental, qui va attaquer le deuxième bloc, c'est quoi? L'argile. L'argile, on avait dit qu'est-ce que c'était? Le monde arabe, oriental. Mais quel monde oriental, le monde arabe? Bah, depuis le Maroc jusqu'au Pakistan, c'est quand même très beaucoup. Qui sait? Qui parmi eux? Alors, dit le Maghrib, il y aura deux peuples. L'argile, c'est en fait les deux premiers, argent et or. L'argent, c'était la Perse, l'or, c'était Babylonie. Donc on doit avoir à la fin des temps une attaque des forces occidentales contre la Perse et la Babylonie. En termes modernes, Babylonie c'est quoi? Irak. Perse c'est quoi? Iran. Les deux guerres du Golfe. 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. C'est déjà la première partie qui est terminée. Deuxième partie, qu'est-ce que ça va être? L'Occident qui attaque l'Iran. Ben, vous lisez le journal comme moi, vous êtes au courant. Ça, c'est ça, sous peu. Quand ça sera, je ne sais pas. En tout cas, déjà qu'il y a une guerre économique, c'est clair. Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, il a dit, de l'histoire, on n'a jamais fait autant de sanctions économiques sur un pays. Très, très dur. J'espère que ça sera une guerre économique. Si c'est la vraie guerre, alors c'est dangereux. Mais déjà, on y est. Et l'Iran est au bord de la suffocation. Le journal L'Express, en 2009, relate qu'en 2002, Bush, le fils Bush, donc en 2009, il a fait la deuxième guerre du Golfe, il a appelé Chirac au téléphone, il lui a dit, viens, joins-toi à moi pour faire la guerre en Irak, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Le journal raconte que Chirac dit, qu'est-ce qu'il a, Gog ou Magog, de quoi il parle? Allez voir les curés, leur ce truc, c'est quoi, de quoi il parle ce président d'État, il serait américain, hein, c'est quoi son truc là, Gog ou Magog? Il dit, non, on parle maintenant de la fin des temps. Lui, c'est un évangéliste, et vous, d'accord, c'est des chrétiens, ils lisent la Bible. Lui, il dit, je suis en train de faire maintenant Gog ou Magog, ce dont vous parlez, lui-même le témoigne. Alors, cette guerre avec l'Iran, Yann Goumara, début du traité Avodah Zarah, qui nous dit la chose suivante, qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah, le prend dans les bras et dit, tous ceux qui se sont occupés de la Torah, qui viennent maintenant prendre leur récompense. C'est à la fin des temps. La Gemara raconte que tous les peuples vont s'agglutiner là-bas au bureau, là que je vous en faut, et vont attendre que chacun va rentrer pour demander sa récompense. On fait rentrer en premier les Occidentaux. Rome, c'est marqué. Rome, c'est le monde occidental. Alors, Dieu dit que vous avez fait. Ben, nous, on a fait toute la fonction logistique, les marchés, l'économie, tout ça. Les bandes de crétins. Chotim Shebaola, mon hébreu. Vous n'avez pas fait ça pour Israël, pour attendre, c'est ça pour vous-même. Dehors. Après, on fait rentrer les Perses. Qu'est-ce qu'ils disent? Même chose, enfin, la façon logistique, économie, tout ça. Même réponse de Dieu, espèce de crétin, je passe pour vous-même, pas pour Israël, pour vous-même, dehors. La Gemara raconte qu'enfin, on est en référence de tous les peuples, tous ont dit la même chose, et tous ont été mis dehors avec le même argument. La Gemara pose la question, pourquoi est-ce que, quand tu me racontes cette histoire-là, tu me dis, d'abord on va faire rentrer Rome, après la Perse, et après tous les peuples. Tous ont eu le même scénario, ils ont dit la même chose, ils ont été mis dehors avec le même argument. Alors dit que tous sont rentrés, tous sont sortis. Pourquoi tu dis d'abord Rome, après Perse, après tout le reste? Répond la Gemara pour nous dire. La Gemara dit comme ça. Ces deux peuples sont différents. Rome et Perse, c'est donc deux peuples qui vont durer jusqu'à l'époque messianique. Ce sont les acteurs principaux de la fin des temps. Rome, donc l'Occident, par extension, on connaît ça même aujourd'hui, qui d'ailleurs a beaucoup de symboles romains encore, les sénateurs, d'accord, l'aigle romain. Quand on dit Rome, on parle du dirigeant du monde occidental. Et la Perse, c'est l'Iran. Les rabbins francophones, il y a 800 ans, qu'on appelle les Baalei Tosafot, écrivent là-bas, posent une question. Ils disent, comment tu peux me dire que l'Iran, la Perse, va durer jusqu'à l'époque messianique? C'est pas possible, pourquoi? On a une Gemara dans le traité Yoma, page 10, qui dit qu'à la fin des temps, pas la fin. Ils disent qu'il y a un temps, on ne sait pas quand, il y aura une guerre entre Rome et la Perse. En parenthèse, mesdames, messieurs, il n'y a jamais eu de l'histoire, on ne connaît pas cette guerre. D'accord, il n'y a jamais eu de guerre entre Rome et la Perse, entre les Grecs et la Perse, Alexandre le Grand. Entre Rome et la Perse, il n'y a jamais eu. Peut-être maintenant, la guerre économique, peut-être bientôt une guerre physique. D'accord, et qui va gagner? Qui va gagner, vous croyez? L'Amérique ou l'Iran? Dagmar a dit c'est l'Iran qui va gagner. Elle dit pourquoi? C'est très clair. Les Romains ont détruit le temple de Jérusalem. Qui a construit le deuxième temple de Jérusalem? Koresh, Cyrus, le roi perse. Il a rêvé, Dieu lui a dit, va construire mon temple de Jérusalem. Il a fait un grand pays. Tous les Juifs, allez maintenant reconstruire le temple de Jérusalem. Votre Dieu est venu en rêve, je vous paye, c'est moi qui paye. Il a construit le temple de Jérusalem. Donc la maladie, c'est logique que les constructeurs vont vaincre les destructeurs. Heureusement, la maladie, on s'est dit un autre ami qui dit, non, c'est Rome qui va gagner. La maladie, comment tu fais que Rome va être destructeur, on vaincre les constructeurs, c'est pas normal. La maladie donne deux réponses. Première, t'as raison, c'est pas logique, Xerat Melech, c'est un décret du roi. Il n'y a pas de discussion, c'est illogique, mais comme ça dure. Deuxième réponse qu'on a la maladie, c'est vrai que les Perses ont construit le temple, et les Romains l'ont détruit, mais les Perses ont aussi détruit beaucoup de petits temples. C'est quoi des petits temples? Des synagogues. Comment on dit très souvent sur les synagogues, un temple, d'accord? Et beaucoup de petits temples en Perse ont été détruits par les Perses, et donc à cause de ça, ils doivent perdre la guerre. Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que ce serait comme ci ou comme ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Tosfot, je reviens sur Avodah Zarah. Donc là-bas dans Avodah Zarah, on a raconté l'histoire que Dieu a pris le Sefer Torah dans ses bras et tous les peuples sont rentrés. Alors, la question, pourquoi est-ce que c'est Rome et Perse qui sont cités? Alors, dis la Gemara, parce qu'ils vont durer jusqu'à l'époque messianique. Là, le Tosfot pose la question, comment tu peux me dire que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique? C'est écrit que la Perse va tomber dans les mains de Rome. Rome va vaincre les Perses. Ils sont liquidés. Donc forcément, ils vont parler vers l'époque messianique. Alors, chose intéressante d'abord que Tosfot a pris que la vie que l'Amérique va gagner. Il n'a pas pris l'autre avis en considération. C'est bizarre. En tout cas, la question est là. Comment la Gemara peut dire que Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique alors que c'est marqué dans un autre traité, Yoma page 10, que à la fin des temps, la Perse, pas la fin des temps, excusez-moi, c'est marqué qu'il y aura une guerre et la Perse sera vaincue par les Romains, va disparaître. Réponse au sort, les rabbins francophones de 800 ans, ils disent que ça sera exactement juste avant que Machar vienne. Quand la Gemara dit que la Perse et Rome vont durer jusqu'à l'époque des années qui vont durer, c'est juste. Simplement, la Perse, une seconde avant. Quand on voit, mesdames, messieurs, que la Perse disparaît, il faut aller acheter les habits, le fait pour recevoir Machar, Benot Hachem, très très bientôt. Qui est la Perse? À mon avis, c'est Amalek. Pourquoi? Amalek, on a une mitzvah de haïr Amalek, se souvenir de ce qu'ils ont fait dans le désert. Pourquoi? On a eu beaucoup d'ennemis durant l'histoire. Pourquoi on a cette haine contre Amalek qu'elle en prend? Parce que leur haine d'Israël est énorme. Elle est gratuite. C'est écrit que celui qui a la haine d'Israël, il a la haine de Dieu. Amalek fait presque de 2000 km pour venir nous attaquer. On vient de sortir d'Égypte. Les peuples ont peur de nous. On sait qu'on a eu des miracles fantastiques, ouvert le bateau de la mer Rouge, une colonne de feu, de nuée qui va devant nous. Miraculeux, on a vaincu les Égyptiens qui étaient la grande puissance mondiale. Ils font 2000 km pour nous attaquer. On leur a rien fait. On n'a pris ni leur terrain, ni leur ville, ni leur champ, rien. Ils viennent par haine. Mais quand on lit Parasha Zachor, il faut se souvenir de cette. Cet épisode-là, tu vois ce qu'on a fait à Amalek, qui t'a refroidi sur le chemin. C'est quoi une explication? On était comme une piscine bouillante. Personne n'osait mettre le bout du pied dedans parce que c'était tellement chaud. On faisait peur à tout le monde. Viens un fou, se jette dans cette piscine bouillante, il est bouillanté. Au moment où il a refroidi un peu la température de la piscine, ça c'est Amalek. Il vient. Il se fait ratatiner. Joshua part en guerre contre eux, c'est vrai qu'il a coupé toutes les grosses têtes. Les petits, c'est Hitler, c'est Staline, d'accord. Les grands, ils ont été liquidés déjà par Joshua. Il est venu, il s'est fait ratatiner, mais au moins il a cassé le mythe, il a refroidi la baignoire. Ça, c'est Amalek. Il vient de loin, pour aucune raison, et il est prêt à mourir, il est prêt à perdre tout, histoire de casser le mythe. On a un seul pays au monde aujourd'hui qui nous hait sans aucune raison valable. Normalement, ici avec nos ennemis qui en entourent d'Israël, l'Égypte, on a pris le Sinaï, la Jordanie, on a pris Jérusalem, la Syrie, on a pris le Golan. Ok, je comprends, il y a un territoire, etc. Mais la Perse, l'Iran, il y a 2000 km entre nous et eux. Qu'est-ce qu'on a fait? L'Iran dit la mission numéro 1, Ahmadinejad a répété ça, Rouhani aussi, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël, mission numéro 1. Mais il y a d'autres choses à faire dans la vie, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait? 2000 km! On a trois pays entre nous. T'as le. T'as la Syrie, t'as l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite. T'as pas pris ton pétrole, t'as pas ton territoire, je t'ai rien pris. Qu'est-ce que tu m'en veux tellement? Mission numéro 1. Et comment ils veulent nous anéantir? Bombe atomique. Pourquoi la bombe atomique? Quoi? Pour simplement être comme ça? Si c'est la mission numéro 1, comprenez, c'est quoi l'Iran? L'Iran, ce sont des chiites. Des chiites. Ce sont des grands croyants. Et ils croient, la Torah s'est marqué que Ishmaël aura 12 Nessim, 12 présidents. Et la Torah les cite d'ailleurs. Eux ils disent, c'est pas ceux-là, il y en a 12 qui peuvent venir. 11 ont déjà eu, le 12e c'est le Mahdi, c'est le Mashiach. Leur Mashiach à eux, qui doit se dévoiler dans le cadre de guerres apocalyptiques dans le monde entier. Chez nous c'est écrit dans Zacharia, que deux tiers du monde vont disparaître. Ils disent la même chose, ils vont couper de chez nous. Mais eux croient que c'est leur Messie à eux. Et eux sont prêts à mettre en œuvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour réaliser ça. Nous, on est des croyants, mais genre, comment on va servir des bombes atomiques pour semer la vie, pour faire sauter le monde entier pour que ma chère vienne. On m'en fout comme. Mais eux, oui. Trump leur a dit, retirez-vous de votre programme nucléaire, je vais vous aider. Le président des États-Unis qui vient un pays, je vais vous aider. Mais ça va, c'est l'autoroute du bonheur. Tout va aller bien, ils disent non, continue. Pourquoi? C'est tellement important pour la bombe atomique. La valeur de la pièce iranienne, elle a dévalué fois mille. C'est la famine là-bas, rien. Pour leur programme, on doit absolument avoir la bombe atomique pour contre Israël. Amalek. Il n'y a aucune autre explication. Ils viennent de loin, c'est tout à fait illogique et ils sont prêts à crever du moment qu'ils peuvent se battre contre eux. Bernard-Henri Lévy, BHL, il y a exactement un an et demi, à Télévision française, TF1, fait une émission et dit qu'en 1935, les Perses ont envoyé une délégation à Berlin pour rencontrer Adolf Hitler. Ils ont discuté et ils ont vu qu'ils venaient de la même souche génétique, arienne, que les Perses sont des Ariens. Hitler a dit, je vous demande une chose. Changez le nom de votre pays, vous appelez Perse, appelez-vous dorénavant Iran. Et la délégation revient et change le nom de Perse en Iran. Parce que Iran égale Arien. C'est la même source, même source étymologique. Alors c'est Amalek ou c'est pas Amalek? C'est Amalek. C'est avec eux qu'on a le dernier acte. Bilam, il vient maudire le peuple d'Israël et par trois fois après une malédiction, faire une bénédiction. Balak qui a payé beaucoup d'argent à Bilam pour venir maudire, il est tout furieux, au lieu de tout ce que tu dis, ça se réalise. Au lieu de maudire ta bénie, moi je suis fichu. Et c'est mis à créer sur Bilam. Bilam me dit, je vais prophétiser maintenant en ce qui concerne toi et la fin des temps. Et dans notre Torah, on a une prophétie du plus grand prophète Goy de l'histoire. Tu t'es égal à Moshe Rabbeinu, du côté Goy. La dernière phrase qu'il dit dans cette prophétie de la fin des temps, il dit, je te dis ce que va arriver à Yamim, à la fin des temps. Il dit comme ça, Oy Mi'irien Misumoel, Bitsim, Miyad, Titim, Reinu Ashur, Reinu Ever, Vedam Moade Oel. Je traduis. Oi, malheur. Mi'irien, qui pourra vivre, survivre, Misumoel, de celui qui va mettre ses décrets, par rapport aux décrets que Dieu va mettre. Vetsim, des flottes. Miyad Titim, partie de Titim, Reinu Ashur, ils vont persécuter Ashur, le pays d'Assyrie. Vinou Ever, et ils vont persécuter Ever, qu'est-ce que c'est que Ever, c'est l'autre côté, mais garde-moi des revers, et aussi à la fin ils disparaissent. De quoi il s'agit? La première partie du verset, Oi, Myriam, monsieur mon père, Oi, malheur, Aïe en français, Oi en hébreu, une chose terrible doit arriver. Qui pourra survivre par rapport à ce décret que Dieu va mettre? le plus vieux, le plus grand des Midrashim, c'est Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, peut-être il y a 1800 ans. Il dit, on parle de Ishmaël. Pourquoi? Parce que dans le verset, c'est marqué « ni rien ni sumo ». Le mot « sumo » peut s'écrire avec quatre lettres. « Sin, vav, mem, vav ». Et là-bas, il écrit avec trois lettres. « Sin, mem, vav », on peut lire « shmo ». Alors, il dit comme ça, « malheur, qui pourra subir par rapport à celui dont shmo est ?» C'est-à-dire dont le nom est « elle ». Il dit, il y a deux peuples qui ont le nom de Dieu, « elle » dans leur nom. Israël et Ishmaël. Et c'est pas pour rien qu'ils ont le nom de Dieu en deux. Pourquoi? Ils ont un mérite. Pas pour rien que la seule population qui peut être en voie du temple, c'est Dafka, les Arabes, et pas d'autres. Ils sont circoncis, ce sont des enfants d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a demandé à Dieu, bénis-le, et Dieu l'a béni. Et ils sont monothéistes, sans copines, vierges, qu'est-ce que j'en sais, des trucs comme ça. Un, unique, sans forme, éternel, comme nous. Le seul peuple au monde qui est monothéiste comme nous, nous sommes aussi. Donc ils ont un certain mérite. Alors, Rabbi Eliezer Agadol dit, oi, c'est eux qui nous font tous les malheurs à la fin des temps. Le Rahim à Kadosh, un des plus grands rabbins de tous les temps, un des trois grands rabbins qu'on appelait Kadosh dans l'histoire, Rahim Benata, il dit, on peut expliquer des explications différentes que les sages d'Israël quand c'est pas dans la halakha. Dans la halakha, on n'a pas le droit d'aller contre un rabbin antique, en aucun cas. Mais dans des explications qui sont des drachotes, c'est permis. Je me permets, sur la base de Horace et Mikado, de donner une autre hache. Quand le texte nous dit « Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre ?» On parle de la fin des temps. Quand je regarde sur la fin des temps, on va dire les 100 dernières années du peuple d'Israël, sur quoi je dis « Oi ?» C'est la seule fois de la Torah, de toute la Bible, on dit « Oi » sur quelque chose, en ce qui concerne le peuple d'Israël. « Oi, malheur, qui pourra survivre ?» C'est la Shoah. Les meilleurs tzadikim, les meilleurs chassidim, tous sont partis là-bas. Qui pourra survivre? Entre parenthèses, le dernier chapitre de Daniel parle de la fin des temps. Comment il commence? Première phrase du chapitre de ce chapitre-là. En ce temps-là, Michaël, le prince supérieur, qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste. Sera un temps de détresse tel qu'on n'aura pas vu depuis qu'existe des nations jusque-là. En ce temps-là, la délivrance viendra pour ton peuple, pour tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Juste avant que Ben Aguiloula, juste avant, regardez ça, peut-être c'est un siècle, quoi, c'est pas un mois ou une année, il y aura un événement terrible, comme un temps de détresse, celle qu'on n'aura pas vu depuis qu'existe nation jusqu'à là, la Shoah. On n'a pas vu une chose pareille, aussi horrible, qu'on verra plus tard Hachem de l'histoire. À mon avis, ce verset de Bilham parle de la Shoah. Oi, malheur, mi-hier, qui pourra survivre? Mis par rapport à Soumoël. Soumoël signifie les décrets, ces décrets. Mais c'est quoi ces décrets Soumoël? C'est qui? C'est quoi? Il y a deux mois, tic, ce matin, ça fait-il dans la tête. Soumoël, mesdames, messieurs, valeur numérique, Adolf Hitler. Malheur, qui pourra survivre par rapport à ces décrets égale Adolf Hitler. Suite du programme, comme dit Daniel, juste après, on commence le tous les événements de la fin. Vexine des troupes. Alors le Targum Yonatan, la traduction en araméen de la Torah, qui donne des profondeurs cachées. Des troupes armées en grand nombre sortiront de Kittim, de l'Occident, viendront attaquer Ashur. Ashur c'est quoi? Le pays d'Assyrie. C'est quoi la Syrie? L'Irak. T'as là, je veux dire, Syrie, c'est la Syrie qu'on connaît, en fait c'est la salle. Et au-dessus, t'as le pays d'Assyrie. D'accord? Ashur, c'est l'Irak qui va faire un soufflet. Première et deuxième guerre du Golfe. Suite du verset, Veinu Ever, ils vont persécuter Ever. Que dit Rachid sur Ever? Ça signifie l'autre côté du fleuve. T'as le frac, qu'est-ce que t'as de l'autre côté? L'Iran. Des flottes armées partiront d'Occident pour attaquer l'Iran. Et à la fin, c'est tout déterminé. Donc, mesdames, messieurs, Ben Rachid est extrêmement proche. Il est clair que les peuples ne veulent pas rentrer en guerre. Et nous non plus, on ne veut pas qu'on rentre en guerre, parce que quand c'est la guerre, c'est terrible. On espère que ce sera que économique et pas plus que cela. Mais néanmoins, je dois vous dire maintenant qu'il faut bien se renforcer durant ce mois et bien faire tchouva. Parce que tout va être signé à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on aura l'année prochaine? Tout va être à Rosh Hashanah, Dieu décide. Et c'est maintenant la dernière ligne droite, mesdames et messieurs, pour faire tchouva, se rapprocher de la chaîne, pour que Dieu décide pour nous une bonne année, parce que ça s'annonce difficile. Voici, c'est un article qui a paru il y a quelques jours. L'ex numéro 2 de la Bourse de New York tire la sonnette d'alarme. Selon lui, il faut se préparer à vivre une crise financière mondiale sans précédent d'ici fin 2020, l'année prochaine. Tout est signé maintenant pour 20 jours. Cette mise en garde, une alerte en bonne et due forme. Conséquence, des pays comme l'Italie, la France, les États-Unis et le Japon sont arrivés à un niveau d'endettement qui n'est plus soutenable. Contrairement à 2007 et 2008, la société n'a actuellement plus d'amortisseurs pour encaisser un nouveau choc. Elle est sur les rotules entre le chômage de masse, les taux de prélèvement obligatoires. La France est championne dans cette discipline. On parle du numéro 2 de Wall Street, c'est pas n'importe qui parle. Un constat qui devrait entraîner d'ici à la fin 2020 un tsunami financier. Georges Dugueux, numéro 2 de Wall Street, estime que ce qui est arrivé à Lehman Brothers est l'illicutien à côté de ce qui nous attend. On sait que tout ce qui a provoqué les grandes guerres mondiales, c'était les crises économiques. Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, ça fait 6-7 ans qu'on en parle, ça va arriver. Mais là, il semblerait qu'on commence un peu à en parler un peu plus. C'est incessamment sous peu. Ça peut être un très grand détonateur de guerre mondiale. On ne veut pas de guerre mondiale, on n'en veut pas, mais sachez qu'il est écrit que Dieu, tiers du monde, disparaîtra. Maintenant, on a l'impression d'avoir acquis quelqu'un qui est pauvre, c'est comme s'il est mort. Alors, il faut espérer, si on fait une grande chouva, que Dieu ait pitié de nous, que ce sera que de la pauvreté, parce qu'on ne veut pas tout, même pas, d'accord, pour nous, que tout se passe bien, mais qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. En tout cas, c'est maintenant que ça se prépare, il faut faire chouva, il faut voter chasse, il faut faire chouva aussi, d'accord. Ça ne suffit pas voter chasse, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, faire chouva. Prendre sur soi, sur quoi on va être jugé. Chacun au niveau où il est, chacun de nous, mesdames, messieurs, on est comme ça. Chacun, il a un choix. Un, c'est quitter sa copine parce qu'il ne vit pas de façon cachère avec elle. Une, c'est s'habiller plus en signaux. Un, c'est mettre un filtre à son portable. Messieurs, les dames aussi, mais les messieurs surtout, des filtres portables, c'est l'ABC. L'ABC. Un, c'est comment est ton Shabbat, comment est ta cache-route, comment est ta prière, comment tu protèges tes yeux quand tu vas dans la rue. Ton étude de Torah, chacun il a son choix. Où il est ? Un c'est quitter sa goya, l'autre c'est prêter comme Baba Salé. Chacun, Baba Salé aussi il a son choix où il est. Chacun de nous. Dieu nous demande maintenant pour nous juger favorablement, tu choisis l'option mieux. T'as fait 1 000 mètres en plus ? C'est bien, au moins tu montres à Dieu que tu montes. Tu peux 2 mm, 1 cm, 2 mètres, encore mieux. Mais ne stagne pas. Il n'y a pas stagné. Quand tu stagnes, tu es en baisse. Il faut monter. Et maintenant, comme le Rabbi l'a dit, il y a une ambiance. Dieu tend sa main et dit, reviens. Dans le ciel, il y a une aide spéciale pour faire tchouva. Ça fait longtemps que je dis que ma chère, il a dit bientôt. Mais un jour, j'aurai raison. Les gens qui rigolent, d'accord. Ça fait 30 ans que tu dis ça. Je dis, mais Noé. 120 ans, il a construit l'arche de Noé. C'était la blague du siècle. Dans les journaux, voilà, le vieux pépé, il est encore en train avec son majeur. Oui, il y aura du jeu. Allez, tu lui fais rigoler. Il a commencé à pleuvoir, les gens n'ont pas cru. Et pour dire, pour faire des jeux, c'est arrivé. On a toutes les preuves de tout lui, voilà. Ça y est, faut pas être aveugle, ça y est. Quand ça sera, on n'est pas prophète. Mais que c'est bientôt, c'est clair. Quand ? On espère jusque dans 2-3 semaines pour les raguer. Allez, va, l'année prochaine. Sinon, un peu plus tard, Pessah l'année prochaine, il n'y a pas longtemps, on nous dit avant 2020, voilà, ça sera l'illicutien des Lehman Brothers, terrible. Et si la crise mondiale, c'est fini, c'est pas dans tous les sens. Nous dit le Midrash, Abi Rabbi Yitzhak, l'année où Mashiach se dévoile, tous les peuples de la terre sont en querelle. Aujourd'hui, c'est de la folie. Pas que ici, l'Arabie Saoudite contre l'Iran, le Hezbollah avec nous, Gaza, etc. Kim Jong, la Corée du Nord avec l'Amérique de nouveau, la Chine avec Hong Kong, l'Inde avec le Pakistan, la Russie qui s'énerve, il envoie des missiles maintenant, l'Amérique envoie des missiles, la Russie attend, attention, on va aussi. Tout le monde s'énerve, calmez-vous. Ils sont exactement ce qu'est le Midrash. L'année où je reviens, tous les peuples de la Terre sont en querelle. Vous direz, bon, il y a déjà eu d'autres querelles durant l'histoire, mais il y a une suite au Midrash, il dit. Le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. C'est quoi le roi de Perse ? L'Iran. C'est quoi son ennemi numéro un à part nous ? l'Arabie Saoudite. Le Midrash dit il y a 2000 ans, le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. Va le roi d'Arabie prendre conseil à Edom. Il y a deux versions, un qui dit Edom, un qui dit Aram. Les deux sont compréhensibles. Edom, c'est l'Occident. Trump, il a fait la vente d'armes la plus grande de l'histoire, 350 milliards. 350 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite. Donc le Midrash nous dit qu'on prend conseil à Edom. Côté le Midrash, il nous dit il revient le roi de Perse, détruit le monde entier. On a vu que Tosot disait que c'est l'Amérique qui va gagner contre l'Iran. Mais j'ai dit que l'Allemagne, il y a deux avis. À mon avis, les deux avis sont vrais. Pourquoi? C'est vrai qu'au niveau militaire, l'Amérique est faite pour écraser l'Iran super rapide. C'est, franchement, c'est pas compliqué. Mais l'Iran est beaucoup plus fort que l'Amérique au niveau terroriste. Ça fait 30 ans qu'ils préparent leur coup. Ils ont des milliers de cellules dormant dans le monde entier. Et il faut comprendre. Le monde occidental est vulnérable. Il y a deux pays au monde qui sont, Baruch HaShem, très bien protégés des terroristes. C'est la Corée du Nord, fermée, on va essayer de mettre un bout là-dedans, impossible, et Israël. On a partout autour de nous des frontières électriques, champs de mines, etc. Tu peux arriver que par bateau ou par avion. Le jour où on essaie de fermer, on ferme. Lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan, tous les avions pour Israël ont été suspendus, tous les vols ont été suspendus. Terminé, on n'a pas qu'il y ait peut-être des. On ne peut plus rentrer. Hacham Kalinsky dit aux gens, venez maintenant, parce que quand vous voudrez venir, vous ne pourrez plus venir. Quand ça va éclater, on va tout fermer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les Iraniens? Alors, l'explosif, ok, mais il y a des moyens beaucoup plus forts. Un peu de liquide bactériologique, une éprouvette d'armes bactériologiques dans l'eau. C'est pas compliqué, ça fait 100 millions de morts en quelques jours. Il y a un hôpital à Paris. Il y a quelques années, ont été dévalisés, ils ont piqué là-bas 10 combinaisons antibactériologiques. Qui a fait ça? On ne sait pas, mais c'est pas compliqué de faire sauter le monde entier comme ils rêvent d'en faire les Iraniens. Comme dit le Midrash, tous les peuples de la terre sont terrorisés, tombent sur leur face et sont pris d'une contraction comme une femme qui accouche. Et Bnei Israël sont terrorisés. Et vont dire où aller, où venir, où aller, où venir, qu'est-ce qu'on fait? On va au sud, c'est avec Gazaoui, on va au nord, c'est Hezbollah, on va en France, là-bas ils sortent avec qu'est-ce que j'en sais, moi, tout là-bas, c'est dangereux, d'accord? On se dit au roi d'Israël, c'est pas bien non plus, on sait pas quoi faire. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé, tout ce que je le fais pour vous, n'ayez pas peur, votre Géoula est là. Donc on est censé voir des phénomènes historiques, des événements historiques de ce type-là. Se réaliser très bientôt. Je vais finir avec une dernière chose qui s'appelle Bahoumanov. Elle est écrite dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, qu'à la fin des temps, c'est le dernier acte avant que Dieu se dévoile, il y aura un roi surnommé Gog, roi du pays qui est surnommé Magog. C'est qui là-bas, qui sera le Nessi Roche Mesher et Tuval. Il sera le président Roche à la tête de Mesher et Tuval, deux villes. Mesher et Tuval. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est écrit qu'il vient du fond du Nord. Dernièrement, j'ai vu, dans le thème de Jérusalem, le commentateur, il dit Mesher, il donne le nom d'une ville, Moscou. Et ça correspond à Mesher, c'est Moscou. C'est quoi, parce que le fond du Nord, le fond du Nord par rapport à Israël, c'est quoi? C'est ni Liban, ni Syrie, ni Turquie, ni Irak, c'est la Russie, c'est ça le fond du Nord. Et tout va, ça va être Tbilissi, Tbilissi, la capitale de la Géorgie, qui est aussi exactement au nord d'Israël. Il vient tout à coup, avec beaucoup d'armées contre nous, attaquer Jérusalem. Mesdames, messieurs, ça fait 40 ans que je connais cette prophétie, je me dis, mais comment il vient? C'est bien gentil, mais il y a beaucoup de pays entre lui et nous. Eh bien, Dieu, il dit, non, mon cher. C'est vrai qu'il y avait des pays. Il y avait la Syrie, il y avait l'Irak, c'était deux pays super puissants. Comment il peut passer Poutine ou un autre russe venir ici? Mais c'est fini. L'Irak était barré, la Syrie était barrée, la route elle est libre. Les Russes, ils sont en Syrie. On a un autre texte, dont je ne vais pas faire trop long, Sanhédrin 98, là-bas c'est écrit, Rach explique que les Perses vont conquérir tout le pays d'Assyrie, donc l'Irak et la Syrie, et vont arriver aux frontières d'Israël pour conquérir Israël. Donc les Perses et les Russes. Tout y est. Du point de vue du scénario, mesdames et messieurs, le décor est prêt. Alors nous, on est tranquille, on dit bon, ben, ça va, Poutine, il nous aime bien, il est gentil, il aime bien Netanyahou, il aime bien les Juifs. Mais, bon, vous, il peut faire comme ça, Pierre Poutine. On m'a dit que son concurrent, c'est un grand, grand antisémite. Imaginez, Khashoggi Shalom, Poutine, tout d'un coup, au moment où on apprend, crise cardiaque ou AVC, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Si le remplaçant, il ne nous aime pas, on est super vulnérable, les Russes sont là, c'est pas long. Une semaine, ils sont tous là. La Russie! Ça, c'est écrit que ça comme ça. Et il a droit à Jérusalem. Et là, Dieu se dévoile. Et je connais le Kaddish tous les jours, mais les Galbildin, le Kaddish, je me sanctifierai, me grandirai aux yeux des grands, aux yeux des peuples, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ce qu'on prie tous les jours, Dieu va se dévoiler, c'est la fin de la prochaine. Rabbi Shlomo Shaoul, qui était un des grands hommes de la Torah, m'a dit, à mon avis, il y aura beaucoup de Magog, c'est clair, mais sans douleur. Pourquoi? Toute la douleur qui était inhérente à beaucoup de Magog est déjà passée dans la Shoah. Donc, c'est un dévoilement de vérité énorme. Qui es-tu? Dans quelle mesure tu as servi Hachem? Dans quelle mesure tu as servi ton peuple? Dans quelle mesure tu es un homme bon? Dieu t'a donné une Torah, cette Torah est éternelle. Fais ton bilan. On est maintenant à 20 jours du jugement. Fais ton bilan, parce que peut qu'il n'y aura plus de Rosh Hashanah. C'est peut-être le dernier de l'histoire. Je peux me tromper, mesdames, messieurs, je ne suis pas prophète, mais c'est proche. Et il y a de fortes chances que je ne me trompe pas. Si ce monsieur Hugo, là, qui est le numéro 2 de Wall Street, dit c'est avant 2020, je veux franchement que ce soit avant. Peut-être qu'il y a encore un autre Rosh Hashanah, mais peut-être pas. On comprend aujourd'hui que dans le monde, on est sous une poudrière, c'est que pas grand-chose pour que ça baisse, c'est pas grand-chose. Donc, enfin, Tchouva, et après, Hashem, on sera Mashiach, dans la joie, dans le bonheur, sans diffusion de sang, et on sera digne de l'autre. Amen. Amen. Amen.